Radio Kapi.
Des détonations d'armes lourdes sont entendues ce mercredi autour de la cité de Rubaya. Des accrochages opposent les combattants du M23 à l'armée congolaise et groupe Wazalendo dans cette cité et aussi dans plusieurs autres localités du territoire de Masisi au nord Kivu. Dans la cité de Sake cependant, règne une certaine accalmie après la chute d'au moins 3 mortiers dans la soirée hier près de la zone. La RDC est aussi concernée par le projet de la voie ferrée de Lobito car elle devra déboucher notamment vers la ville de Kolwezi dans le Lualaba. Ce projet est l'un des points au centre du séjour du président des États-Unis en Angola depuis 48 heures. Ce projet a bénéficié des financements de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord des FRDC est l'invité de ce journal. Le colonel Makazukai va parler de la multiplication des attaques par des ADF ces derniers jours dans le territoire de Beni au nord Kivu. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Des accrochages opposant les hommes du M23 à l'armée congolaise et groupe Wazalendo sont signalés dans plusieurs localités du territoire de Masisi au nord Kivu. C'est entre autres autour de la cité minière de Rubaya où des détonations d'armes lourdes sont entendues ce mercredi. Et pendant ce temps, la cité de Sake, dans le même territoire, s'est réveillée dans une certaine accalmie ce mercredi après la chute d'au moins 3 mortiers dans la soirée hier près de la zone. Bernard Nyangi.
Les combats ont repris vers 8h locales ce mercredi autour de la cité minière de Rubaya, en territoire de Masisi. Selon plusieurs sources locales, les combattants Wazalendo ont repris les attaques qu'ils ont menées entre 4h du matin et midi hier mardi contre les positions des rebelles M23, notamment à Kibabi, Biambwe et Mema, à 10 kilomètres de Rubaya centre. Aucun bilan de ce combat n'est encore disponible, la zone ayant des perturbations des réseaux de téléphonie mobile. Par ailleurs, entre 17h30 et 18h locales, hier mardi, au moins 3 mortiers qui auraient été largués depuis les positions occupées par les rebelles sur les montagnes surplombant Sake sont tombés sur le village de Kimoka. C'est à près de 2 kilomètres du centre de Sake. Aucun dégât humain ou matériel n'est à déplorer, disent nos sources sur place, excepté le fait que cela a accru la psychose dans la cité qui enregistre un retour timide des habitants. Dans la même zone, nos sources parlent d'un autre affrontement qui a opposé lundi matin l'armée congolaise aux rebelles M23 sur l'axe Kimoka-Chauvet dans le parc national de Virunga, sans plus de détails. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
Le Nord Kivu dispose désormais d'une équipe provinciale intégrée de transition auprès de la MONUSCO. Le protocole de mise en place de cette équipe a été signé dans la soirée hier mardi par le chef de bureau de la MONUSCO et le gouverneur militaire intérimaire général-major Peter Chirimwa Minkuba. Pour le chef de bureau de la MONUSCO Goma, l'équipe forme le cadre stratégique multi-acteurs d'orientation, de coordination et d'évaluation du mécanisme provincial de transition et désengagement de la MONUSCO, cela même si la date du retrait de la mission onusienne n'est pas encore précisée. Omar Aboud dans cet extrait choisi par Bernard Nyangi.
Comme vous savez, il n'y a pas une date précise pour lancer le processus de désengagement et transition, mais c'est important de commencer le travail de maintenant. C'est pourquoi ici pour signer les deux décrets. C'est le gouverneur qui a signé ça. Nous sommes ici pour faire le suivi et pour soutenir le gouvernement. Nous continuons à effectuer notre mandat clé qui est protection des civils dans la province mais dans le pays. Surtout maintenant, on est toujours dans la province de Nord Kivu et Ituri jusqu'à le dernier jour. Alors pour nous, c'est très important. On continue à soutenir nos partenaires, le côté militaire, les FRDC, mais aussi le côté d'administration, le gouverneur, les institutions étatiques. Bon, il n'y a pas une date pour commencer la transition, mais le moment, il y a une décision au niveau de Kinshasa en consultation avec notre chef. Avec la décision du Conseil de sécurité, on peut lancer la transition.
Au moins 9 civils ont été tués, 10 maisons incendiées et plusieurs biens pillés lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF survenue dans la nuit de mardi à ce mercredi à Oicha, à 30 kilomètres de la ville de Beni. Selon des sources de la société civile locale, le bilan reste provisoire, mais un calme précaire semble régner dans la région. Ici à Kinshasa, désormais, tous les Kuluna ou gangsters seront exécutés. Dès aujourd'hui commencent les audiences publiques foraines contre le banditisme urbain à Kinshasa et en province. Ainsi en a décidé la commission spéciale dite Kuluna Zéro, mise en place au cours d'une réunion hier mardi au ministère de la Justice pour lutter contre l'insécurité et les nuisances sonores dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. L'annonce est faite par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, en exécution des instructions du président de la République. Selon le ministre, faisant référence à la Bible, « Qui tue par l'épée, périt par l'épée ». La commission est composée des membres du ministère de l'Intérieur, de la Justice, ainsi que de hauts magistrats, auditeurs militaires et des agents de sécurité. Le ministre annonce également des bouclages dans les quartiers et rues de la capitale. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jeff Ngoy.
Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. La commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné pour terrorisme, sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Kuluna dans des prisons de haute sécurité. Le premier lot des Kuluna qui sont condamnés cette semaine sera évacué à Nginga et dans d'autres prisons déjà ce week-end. Des bouclages seront organisés dans les quartiers.
Une autre mesure phare prise par la commission consiste à traquer les auteurs des nuisances sonores diurnes et nocturnes. Tous ceux qui se livrent à déranger la quiétude des voisins seront non seulement interpellés, mais se verront également confisquer leurs instruments de nuisance et payer de lourdes amendes, d'après Constant Mutamba. Le président de la République démocratique du Congo est arrivé ce mercredi matin à Lobito en Angola pour participer à la rencontre multilatérale sur le corridor de Lobito. Félix Tshisekedi rejoint ses homologues Joe Biden des États-Unis d'Amérique, João Lourenço de l'Angola, Hakainde Hichilema de la Zambie ainsi que le vice-président de la Tanzanie. Cette réunion multilatérale autour du corridor de Lobito vise à redynamiser ce projet stratégique soutenu par les États-Unis et qui consiste à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en passant par la RDC. Le corridor de Lobito devrait faciliter le transport des produits miniers, notamment le cuivre et le cobalt. Selon la presse présidentielle, le président Félix Tshisekedi devrait également rencontrer en tête-à-tête son homologue américain Joe Biden, arrivé pour la première fois en Afrique. Vous l'avez suivi, la RDC est aussi concernée par ce projet du corridor de Lobito. Mais quel bénéfice va-t-elle y tirer? Tentative de réponse avec Jean Gandou.
Le port de Lobito est une aubaine pour l'économie congolaise, notamment dans le cadre des échanges commerciaux. La voie ferrée qui mène à ce port à partir de la RDC offre plusieurs avantages aux opérateurs économiques. Généralement, les miniers du Lualaba et du Haut-Katanga évacuent leurs produits par le port de Durban en Afrique du Sud ou par celui de Dar es Salaam en Tanzanie. Et ce sont plus de 3000 km à parcourir. Le premier avantage se définit donc en termes de temps. Pour aller au port de Durban, les camions mettent 25 jours en revanche pour atteindre le port de Lobito, la durée est réduite à 8 jours et la distance est d'environ 1600 km, ce qui constitue un gain considérable. Les miniers du Lualaba et ceux du Haut-Katanga pourront également faire passer leurs importations par ce port. Pour Justice ASBL, une ONG de défense des droits de l'homme, la reprise du trafic et la réhabilitation de cette voie ferrée devraient en principe avoir aussi des effets collatéraux sur les entités directement impactées par l'exploitation de cette voie ferroviaire. Timothée Mbouya.
C'est une très bonne opportunité pour relancer l'économie. La justice demande que les besoins des communautés soient priorisés dans ce projet. On prenne par exemple en compte le besoin en développement des infrastructures, en développement de l'agriculture ou en développement d'autres besoins sociaux.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le projet de budget 2025 a été examiné en seconde lecture hier mardi au Sénat après son adoption à l'Assemblée nationale. Il est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 49,5 846,6 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. Après un débat général de plus de 6 heures, la loi des finances de l'exercice 2025 est déclarée recevable par la plénière du Sénat et envoyée à la commission ECOFIN de la Chambre pour un examen approfondi. Michel Kifindangoy.
Dans sa présentation de l'économie du budget 2025 au nom de la première ministre empêchée, le ministre d'État en charge du budget souligne que ce projet est assis sur quelques indicateurs macroéconomiques, parmi lesquels le taux de croissance du PIB qui s'élève à 5,7%, le taux d'inflation moyen de 10,3%, ainsi que le taux d'échange moyen de 2954 francs congolais par dollar. Pour Aimé Boji Sangara, ce budget connaît un accroissement de 18% des crédits alloués aux investissements, 16% du secteur de l'agriculture, pêche et élevage et 25,2% à la sécurité en vue de la montée en puissance de l'armée et des forces sécuritaires. Parmi les investissements envisagés dans ce budget, le ministre Aimé Boji cite la poursuite de la mise en œuvre du PEDEL 145 territoires, la construction du port en eau profonde des Bananas, de la route Mbujimayi-Bukavu, ainsi que la modernisation de quelques aéroports dans plusieurs villes du pays.
Toujours à Kinshasa, le gouvernement et les banques commerciales ont signé hier le contrat de financement des manques à gagner enregistrés par les pétroliers en RDC. Au cours d'une réunion avec les représentants des 14 banques commerciales partenaires du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a chargé ces banques de collecter les stocks de sécurité afin de les reverser sans retenue, conformément à la loi, aux sociétés pétrolières. Représentante de l'une de ces banques collectrices, l'Aro Bank, Madame Gisèle Mazengo a rassuré de la bonne coopération entre le gouvernement et les banques commerciales partenaires. Vous pouvez écouter tour à tour John Koilolonga, responsable du secteur public région Ouest au sein des Equity BCDC Bank, et Gisèle Mazengo dans cet extrait.
Donc, au mois de décembre, nous avons fait un premier tirage pour le paiement de ces pertes et manques à gagner. Et nous avons fait maintenant la deuxième étape, un deuxième tirage afin de solder ces pertes et manques à gagner auprès du secteur pétrolier afin d'éviter la moindre pénurie au sein de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes toujours en attente des documents administratifs qui sont auprès du BPM et du ministre des Finances. Une fois que nous aurons réceptionné, nous allons mettre les procédures en place afin de créditer les pétroliers au courant de l'année 2024.
Je dirais que son Excellence, Monsieur le ministre, le vice-premier ministre de l'économie est très clair, ou était très clair lors de la réunion. Le gouvernement peut très bien compter sur le banque pour la collecte de fonds, pour sécuriser la problématique sur le financement des pétroliers. Il n'y a pas de souci, les banques sont là, elles font leur travail pour accompagner le gouvernement.
Actualité internationale. Au Ghana, le Fonds monétaire international FMI a approuvé lundi un nouveau versement dans le cadre du programme d'aide de 3 milliards de dollars conclu avec le pays en 2022. Ce paiement d'un montant de 360 millions de dollars est attribué, selon le FMI, aux performances économiques globalement satisfaisantes du gouvernement et aux réformes qui portent leurs fruits, une annonce que le parti au pouvoir n'a pas manqué de valoriser à seulement 4 jours des élections générales.
L'invité.
Depuis près d'un mois, les ADF multiplient les attaques dans le territoire de Bénin-Nord-Kivu. La dernière incursion de ces rebelles s'est déroulée à Oicha, chef-lieu du territoire, où au moins 9 civils ont été tués dans la nuit de mardi à ce mercredi. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola en Grand Nord des FRDC, le colonel Makazukai, évoque des ADF traqués dans la partie ouest de la route nationale numéro 4 et qui cherchent à regagner leurs anciens bastions dans le triangle dit de la mort entre Oicha, Mbao et Kamango. Il assure que des mesures ont été prises pour protéger la population et invite cette dernière à ne pas céder à la manipulation, mais plutôt à faire confiance au FRDC ainsi qu'à leurs partenaires ougandais des UPDF et de la MONUSCO. Le colonel Makazukai, qui est notre invité, répond aux questions de Martial Papimukeba.
Colonel Makazukai, bonjour.
Bonjour.
Les attaques des ADF se sont multipliées ces dernières semaines dans la région de Beni. Comment les FRDC expliquent-elles cette recrudescence malgré les efforts des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises?
Nous avions alerté il y a de cela quelques jours que
l'ennemi s'était infiltré avec l'intention de revenir dans ses anciens bastions.
En provenance d'où ?
En provenance de l'ouest de la nationale numéro 4. Et aussitôt informés, nous avons pris des dispositions pour l'éradiquer. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Ce groupe s'est manifesté sur la route Eringeti-Kainama, dernièrement aussi sur la route Mbao-Kamango. Hier soir, c'est encore Tenambo qui a été touché. Nous pensons que cette guerre que nous menons contre le terrorisme, nous ne la menons pas seuls, nous la menons avec nos partenaires, que ce soit l'UPDF ou la MONUSCO, y compris la population. Et nous sommes touchés lorsque l'ennemi nous échappe et vient commettre des crimes dans des agglomérations.
Certaines sources parlent des groupes des ADF qui étaient en mouvement vers l'Ituri et qui ont l'intention de revenir dans les territoires de Beni et cherchent activement des chemins pour y créer des bastions.
À un moment donné, nous avions le contrôle de ces anciens bastions et là où ils s'étaient retirés, à l'ouest de la nationale numéro 4, ils ne faisaient pas beau vivre et c'est ainsi qu'il est en train de chercher à revenir dans le triangle dit de la mort. C'est vrai, il est en train de manœuvrer parce que les gens doivent savoir aussi que l'ennemi n'est pas bête. L'ennemi essaie d'exploiter certains éléments pour essayer de se reconstituer. Mais je pense qu'avec le concours de la population, nous allons localiser et détruire le groupe qui est en train de errer dans le triangle de la mort.
Quelles mesures concrètes, les FRDC et leurs partenaires comptent-elles adopter pour renforcer l'efficacité des opérations contre les ADF?
Non, partenaires, nous sommes soucieux de la situation. Lorsque ça se dégrade comme ça, ça nous inquiète tous. La seule chose que je peux dire à la population, c'est de doubler vigilance, d'éviter de fréquenter les profondeurs de la nationale numéro 4. Surtout l'Est pour l'instant, parce que c'est là où l'ennemi est en train d'errer. Aussi, je tiens à dire à l'opinion que cette énième incursion ne doit pas constituer une occasion pour nous diviser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront tentés d'exploiter cela pour diaboliser tel ou tel autre partenaire. Nous pensons que nous devons travailler ensemble. Je parle de nos partenaires et nous, y compris la population. Donc quand je parle de partenaires, je vois l'UPDF, je vois la MONUSCO qui est dans la zone et nous attirons l'attention de la population pour qu'elle ne soit pas manipulée. Parce qu'il y a des gens qui vont saisir cette occasion pour dire que si ça n'a pas marché, c'est telle ou telle autre personne, c'est tel ou tel autre partenaire, ce n'est pas ça. Il n'y a personne qui peut être contente de la dégradation de la situation sécuritaire. Donc, nous devons rester ensemble, rester soudés, travailler pour que la paix revienne. Effectivement, je viens de le dire, c'est un travail de longue haleine.
Colonel Mac Azoukai, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au micro, c'était Noëlla Luzitu-Kabambi. La mise en onde est assurée par Dieudonné Nyangasa, le tout sous la coordination de Élisée Chikota-Chivueta.